Enfin, j'ai pas d'informations qui me poussent à croire que l'IA d'Agali bénéficierait d'un quelconque soutien de la part de la communauté internationale de façon générale, mais de façon plus particulière la France.
Mais le fait qu'il
Ce que je...
bénéficie d'une liberté de mouvement assez surprenante, vous, ça ne vous surprend pas?
Effectivement, il bénéficie de complicité locale. Mais cela a une explication. J'ai l'habitude de le dire. Une opération militaire éphémère du type Barkhane ou même de la MINUSMA ne peut pas faire disparaître du jour au lendemain les liens tribaux et familiaux qui unissent certains membres d'Ansardine, en l'occurrence IAD, de d'autres membres plutôt du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ou même d'autres groupes politico-militaires opérant dans la zone. Donc effectivement, il peut y avoir une espèce de collusion, de collaboration même tacite ou collaboration plus explicite entre ces différents mouvements ou entre les acteurs de ces différents mouvements-là.
D'aucuns disent même que les autorités de Bamako seraient aussi complaisantes vis-à-vis, ou bien à l'égard de Yag Agali.
Pour comprendre un peu la position des autorités maliennes qui me semble un peu floue, parce que d'un côté on dit on négocie pas avec les terroristes, de l'autre il y a pas mal d'appels au sein de la classe politique malienne, mais également d'autres acteurs, autres que les acteurs politiques, d'appels à une inclusion de Diad Agali dans le processus de paix. Donc il se murmure beaucoup qu'il est toujours possible de négocier avec Iyad Agali. La question est de savoir comment le faire en évitant de perdre la face, en tout cas de faire perdre la face aux acteurs internationaux notamment qui ont martelé sur tous les plateaux et partout en tout temps que Iyad Agali n'était pas fréquentable.
Oui, dans la vidéo, Yag Agali a notamment proféré des menaces contre Paris et l'ONU. Est-ce que vous prenez au sérieux ces menaces?
Faut les prendre au sérieux parce que on sait que la MINUSMA est en grande difficulté aujourd'hui au Mali, précisément dans la région de Kidal. Et pas que la MINUSMA, il y a également Barkhane qui a perdu 3 soldats il y a pas très longtemps, il y a 2 mois de cela. La MINUSMA en a perdu 5 au cours du mois de mai à Kidal. Elle en a perdu 5 à Mopti, elle en a perdu 1 à Gao. Donc effectivement, il faut prendre ces menaces-là au sérieux. Et ça pose encore une fois de plus la question du traitement par les autorités nationales d'abord de cette menace-là et de cette question.
Oui, et que faut-il faire? Neutraliser Yad Agali ou bien qu'est-ce que vous préconisez?
Dans tous les cas, il y a 2 options qui s'offrent au gouvernement malien et par extension à la communauté internationale tout entière. Il y a la négociation ou l'option militaire. La négociation, les acteurs internationaux, en tout cas du moins dans leur discours, semblent ne pas être favorables à cette option. Les autorités maliennes sont un peu dans le flou pour le moment parce qu'on ne voit pas une idée claire se dégager
Oui, mais
de la part de ces autorités-là.
quel intérêt ont les autorités maliennes à garder ce flou artistique autour du sort d'Iyad Agali?
Je crois que ce flou est lié plutôt, ou en tout cas cette façon d'être, cette manière d'être indécis est fortement liée aux pressions externes que le gouvernement malien ou que les autorités maliennes subissent de la part des acteurs internationaux qui ne semblent pas favorables à une négociation et aux pressions internes, notamment de certains acteurs du processus de paix, de certains groupes armés politico-militaires qui souhaiteraient voir Iyad Agali jouer un rôle dans le processus de paix.
Oui,
Donc, le
justement.
gouvernement malien et les autorités maliennes sont tiraillés entre ces deux positions, des contraintes externes et des pressions internes, si vous voulez.
Est-ce que finalement l'Algérie n'a pas un dernier mot à dire, puisque Yag Agali serait tantôt entre l'Algérie, tantôt vers la Libye? Est-ce que les autorités d'Alger n'ont pas finalement le dernier mot?
Je ne sais pas si les autorités algériennes ont le dernier mot, mais il est clair que sans une vision, sans une approche claire et affirmée des autorités maliennes, il est difficile pour les acteurs internationaux de s'engager également. Effectivement, l'Algérie n'a pas pris une position très claire et à l'époque, si vous vous souvenez, elle faisait partie des rares acteurs à préconiser un dialogue avec Ansardine, au moment bien avant l'intervention Serval en 2013. Donc je crois que Alger n'est peut-être pas défavorable à une négociation politique ou à une inclusion de ces acteurs-là, puisque elle-même, dans son histoire, a eu à intégrer des anciens djihadistes. Les anciens du FIS, notamment du Front islamique pour le salut, dans un processus de réconciliation.
Oui, mais dans ces cas, pourquoi est-ce que Alger ne coopère pas avec les forces internationales ou bien Bamako pour neutraliser Yag Agali?
Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas eu, une, il n'y a pas, en tout cas à mon avis, une position claire sur ce problème. Je vous ai dit, il y a 2 options, soit on neutralise Iyad Agali, soit pour négocier avec lui. Dans les deux cas, il y a des contraintes. La négociation, comme je vous l'ai dit, les acteurs internationaux ne semblent pas y être favorables. La solution militaire aujourd'hui, l'armée malienne n'a pas les moyens, d'ailleurs elle n'est pas présente dans la ville de Kidal du moins, et elle n'a pas les capacités militaires de se saisir l'IA d'Agali. Les forces internationales également sont dans ce problème-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a une absence de collaboration, elles ont eu à le décrire à plusieurs reprises, une absence de collaboration de la part des populations. Et cette absence de collaboration, comme je vous l'ai dit, elle est liée aux liens familiaux, d'ordre clanique, entre ces différents membres-là. Il y a d'Agali, d'une part, et d'autre part, certains éléments des groupes armés politico-militaires.
Oui, donc tous ces éléments font que Iyad Agali est devenu un terroriste VIP, hein, si on peut le dire.
On peut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, une position claire et tranchée concernant son avenir. Et de toutes les façons, le dernier mot lui reviendra. Je vous dis, ce que se murmure aujourd'hui à Bamako, c'est qu'il est possible de négocier avec l'homme, mais personne ne sait aujourd'hui avec exactitude s'il est prêt, Iyad Agali, à négocier avec le gouvernement malien.
Ouais. Et si Iyad Agali négociait donc avec Bamako comme il l'a déjà fait dans les années précédentes, est-ce que cela ne va pas donner des idées à d'autres terroristes comme Mokhtar Belmokhtar, même si on sait on ne sait pas s'il est en vie ou mort?
Donc, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'un côté, moi, ce que je considère comme les groupes, entre guillemets, djihadistes maliens, les groupes terroristes, si vous voulez, transnationaux ou venus d'ailleurs. Ansardine est un mouvement malien, un mouvement djihadiste, vous l'appelez comme vous voulez, un mouvement terroriste malien. Vous avez à côté d'Ansardine, à l'époque, on parlait beaucoup du Moujaou, mais le Moujaou est un mouvement transnational, de même que ACMI. La plupart du. Quand vous prenez le leadership d'ACMI, vous retrouvez beaucoup plus d'Algériens que de Maliens. Et d'ailleurs, le seul Malien à avoir eu une katiba dans le nord du Mali, à disposer d'une katiba pour le compte d'ACMI dans le nord du Mali, c'est un cousin de Diad Agali, Abdelkarim Altargui.